cavallo di quest'onda, sballottato da sponda a sponda, inseguendo un'altra volta la grande onda che ritorna. Luce rossa, squalo in vista, nella mischia sono surfista, pista fuori dai coglioni, sulla tavola da leoni, tra campione e campionatori, buonanotte ai suonatori, iri iri ari oh, dentro all'acqua segue il flow.
Mai quest'onda mai mi affonderà, gli squali non mi avranno mai, quest'onda mai mi affonderà, sha la 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 la, sha la 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 la.
Poi non tira, resteremo alla deriva, tra le onde di questa vita, nelle righe di questa rima, diversi destini, partenze, arrivi, dov'è che vai, cosa farai, ti reggerai o ci volerai, sai che qui non c'è più tempo perché il sole sta scendendo, sulla tavola estate inverno, questa muta che fa da guanto, aspettando un'onda lunga, passa la cera un'altra volta, poi col vento nelle mani, qui il futuro è già domani.
Mai quest'onda mai mi affonderà, quali non mi avranno mai, quest'onda mai mi affonderà, sha la 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 la, sha la 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 la, sha la 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 la, un'altra volta un'altra onda, sha la 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 la, sha la 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 la, quanto resisterai.
Piotta, Piotta, original Beach Boy, sulla cresta resta, cresta resta come Silver Surfer.
Bonsoir, benvenuti su Radio Galera 88.4 FM. Galilée, c'est quelqu'un qui a changé le monde. On a vu qu'il a modernisé la philosophie, la vision de l'humanité, la vision de l'univers. On n'est plus anthropocentrique, l'homme non est plus au centre de l'univers, on n'est plus péripatéticien, on n'est plus aristotélicien, on n'est plus syllogistique, on est au marge de l'univers. La Terre tourne autour du Soleil, c'est pas la Terre le centre de l'univers autour de laquelle toutes les choses tournent. Donc cette vision pas géocentrique mais héliocentrique, il change, il renverse la vision de l'univers. Et dans cette vision, on a construit la nouvelle philosophie, on a construit la nouvelle méthode scientifique basée sur l'expérimentation et sur l'évidence, et on a construit la nouvelle rhétorique linguistique basée sur la langue italienne, la langue qui peut rejoindre au-delà du latin toutes les personnes, de la servante aux classes dirigeantes qui peut comprendre la diffusion d'une méthode scientifique. Dans la dernière émission, on avait parlé de l'œuvre maxime, de l'œuvre la plus significative de Galilée, qui c'est le dialogue sur le de maximum système du monde. Regardez l'élégance de cette expression, le dialogue sopra de massimi sistemi del mondo, le dialogue sur le de maximum système du monde, maximal système du monde. Et d'un côté la vision ptolémique, de l'autre côté la vision copernicienne, la vision héliocentrique. Et à propos de ce dialogue-là, c'est Galilée viendra processer. Pourquoi? parce qu'il a causé la rancune du pape, parce que Urbain VIII se sent en sotte, parce que dans le monde de Simplicio, dans la bouche de Simplicio, il est confié la théorie de l'absoluta potentia Dei, la théorie selon laquelle Dieu peut créer l'univers de sa façon et l'homme peut l'interpréter selon cette théorie ptolémique ou copernicienne, n'importe pas. L'important c'est que l'absolu puissance de Dieu est indiscutable. Galilée verra jugé. Galilée sa. On arrive finalement à cette dernière émission sur Galilée, on arrive au focus de toutes nos émissions, on arrive au procès de Galilée. Galilée verra processé et il sera condamné à prononcer un abjure solennel. On est dans l'été 1631. Dans l'été 1631, il y a l'imprimatur, ça veut dire la concessione dell'impression. Il y a l'autorisation della parte di Riccardi, maître du Sacre Palais Apostolique, e lì ha per la prima volta l'edizione romaine, una deuxième fois on a l'edizione florentina. Riccardi, par contre, donc le pape, la curie, l'église, reçoit che la lettre al discreto lettore della quale on a parlé, e la dernière partie, donc première et dernière partie du dialogue autour du maximum système du monde. La dernière partie sull'absoluta potenza Dei. Entretanto, Nicolini, c'est l'ambassadeur du pape a Florence. On voit qui sa femme, c'est la sœur de Riccardi, et Nicolini obtient l'autorisation à l'imprimatur, il y a l'appui du Grand-Duc, et il y a la facilité à l'édition. Donc, l'œuvre, le dialogue sur le maximum système du monde est publié en février 1632 et les premiers exemplaires sont envoyés justement à Riccardi et au pape même. Malgré l'épidémie de peste, l'œuvre est publiée. Alors, l'hypothèse des accusations, pourquoi Galilée est accusé pour cette œuvre, le dialogue sur le maximum système du monde? D'un côté, on a une hypothèse que les jésuites Scheiner, qui on a vu, appelle Latens tabulam, il veut réglementer son compte, il veut faire un règlement de compte. De l'autre côté, il y a aussi un autre règlement de compte entre le commissaire du Saint-Office, che è Maculano, e Riccardi même. Donc, cette accusation-là, on ne sait pas pourquoi, on n'a pas de preuve historique sur cette accusation-là, mais Galilée, il est accusé, il est porté devant l'acquisition. D'un côté, on a cette figure de Simplicio qui est un peu en sotte. A Simplicio, il est mis en bouche la théorie de l'absoluta potenza Dei, et pas Salviati, qui était le rappresentant de la nouvelle science, la nouvelle méthode scientifique. Donc, le pape, il a un rancune, un ressentiment envers Galilée pour avoir mis en bouche cette théorie à Simplicio, qui est un peu le personnage con, on va dire, de ce dialogue. Et après, de l'autre côté, il y a aussi la large diffusion internationale du dialogue qui est un peu un défaite pour l'Église. En juillet 1632, Ricard écrit à Florence pour bloquer la publication. En août, le philosophe, l'autre grand philosophe Campanella, il communique à Galilée que le cardinaux, sous initiative du cardinaux Nevet, il examine l'œuvre, ça veut dire le dialogue sur le maximum système. Le 23 septembre, l'Inquisition ordonne à Galilée de se rendre à Rome et en début octobre, Galilée sera en Rome. Le 8 mars 1632, il y a le consistoire secret des cardinaux espagnols. Qu'est-ce que c'est? Les cardinaux espagnols, sous la guide de Gaspare Borgia, ils s'étaient réunis pour condamner le pape même pour trop de... lâcheté, pour trop de lassisme contre la réforme protestante. Donc il condamne le pape Urbain VIII. Urbain VIII, il est obligé à se défendre, il est obligé à défendre son orthodoxie et il est sévère aussi avec Galilée même. Le chancelier du Grand-Duc Cioli refusa autoriser la procédure de l'inquisition, la procédure inquisitoire, et en disant que l'autorisation à publier était donnée d'un côté par la censure romaine et de l'autre côté par la censure florentine. Donc, on voit l'embarras de la cour papale pour cette question de l'imprimatur, pour la concession à imprimer. Ciampoli, qui on a vu Ciampoli, c'était quelqu'un che aveva fatto carriera alla cour papale, quelqu'un che era il consigliere du pape, il è vu come le bouc émissaire, il è traité come un bouc émissaire, il è accusé d'extorcer l'autorisation contre la confiance du pape à l'imprimatur. Et Riccardi, d'un côté, se protège, montrant que Ciampoli il a estorqué cette autorisation à l'imprimatur de la part du pape. Le pape, de l'autre côté, accusera Ciampoli d'avoir rédigé l'accusation des cardinaux espagnols et il l'envoyera à Viterbo, donc dans une petite province italienne. De l'autre côté, on voit qu'il y a la commission de la Nice de l'Èvre par la cardinale Nevers qui sera justifiée par le pape comme une étape nécessaire avant de déclencher les procès. Donc la diplomatie toscane envoyera des lettres à tous les cardinaux pour protéger Galilée, mais à la fin tout ça sera confié à la vie de l'Inquisition. Le 23 septembre 1632, on a l'ordre de comparition pour Galilée. Mais cet ordre de comparition, c'est hoc penitus incio, ça veut dire à l'insu de l'amputé. En théorie, donc c'est une chose totalement logique, vous voyez, parce qu'il commande un ordre de comparution, mais à l'insu, ce procès devait être à l'insu de l'amputé de Galilée, avec des témoins clandestins et sans la connaissance de Galilée. Donc ça, c'est la preuve que la diplomatie papale a perdu totalement le contrôle. Le 1er ottobre 1632, Galilée signa la fide, qui c'est une déclaration sur l'honneur, et en janvier 1633, Galilée est à Rome pour essayer de retarder les processus. Castelli, on a vu Castelli, c'est un élève de Galilée qui prenderà la relève de Galilée, qui sarà professeur à la Sapienza. Il se batterà e il cercherà di sottolineare il carattere ambiguo della situazione. D'un côté il sème le doute entre le cardinaux favorables e le cardinaux défavorables. E là il commence le vrai procès. Galilée sarà hébergé per Nicolini alla Villa Medici a Rome e le ha 8 accusations gravissime, mais en même temps, on dirà alla fine di questa accusazione là tutte le quali cose si potrebbero annullare se si giudicasse essere di qualche utilità il libro del quale gli si dovesse far questa grazia. Toutes ces accusations peuvent être annulées si on peut juger d'une sorte d'utilité les livres pour lesquels on devrait faire cette grâce. Donc il y a même dans cette accusation gravissime, dans cette huit accusations gravissimes Un retraitement de l'église en embarras de l'église. Le 2 avril, Galilée a 68 ans et il est transféré au palais de Saint-Office. Normalement, les condamnés, les amputés allaient en prison, mais il est mis dans les appartements du commissaire de la congrégation, du commissaire Maculano. Dans le premier interrogatoire, Galilée affirme à Maculano que tous ses raisonnements sont faits ex supposizione, comme disait le cardinal Bellarmino. Ça veut dire c'est des choses qui sont purement mathématiques, c'est purement des raisonnements mathématiques et ne sont pas des théories absolues. Dans tout ça, il y a des irrégularités énormes. Déjà, il y a l'absence du manuscrit original. Pourquoi l'absence de ce manuscrit original? Parce qu'il était déjà corrigé et autographé par le pape. De l'autre côté, parce que le manuscrit aurait montré que Riccardi aurait laissé passer des thèses inacceptables. Maculano il fait ensuite un interrogatoire suggestif, ça veut dire il suggère par les bias des instruments très graves à Galilée des choses, e Galilée reconnaît che Bellarmino avait notifié le preceptum. On a vu che le preceptum il était che è un brouillon, il était jamais notifié, il était jamais signé par Galilée. Ma Galilée, dans cet interrogatoire, il l'a mis. Entre le Vendée et le 30 avril, Galilée est poussé pour Maculana à admettre que dans les livres il a excédé. Pourquoi? Parce qu'il espère de pouvoir sauver les dialogues sur le maximum système du monde après quelques modifications. Le 10 mai, Galilée est convoqué pour présenter sa défense à l'attestation de Bellarmino et rédige ses mémoires. L'attestation de Bellarmino, il est utilisé par l'Inquisition comme une confirmation que le preceptum avait valeur juridique. En théorie, le preceptum, il disait, pas le preceptum, même la caritativa monis, il disait que Galilée ne devait pas tenir quovis modo, dans n'importe quelle façon, une position copernicaine. Le 13 juin 1633 arrive la condamnation. Malgré Maculano assure que le secret de la procédure, le pape exige quelque chose de théâtral. Galilée est interrogé à nouveau super intention pour connaître sa vraie intention. Le 21 juin, on lui montre les instruments de torture et à ce point-là, Galilée dira « «Sono qua nelle loro mani, facciamo quello che gli piace, io sono qua per far obbedienza, je suis là dans vos mains, faites-vous ce qui vous plaît de moi. Je suis ici pour faire obéissance.» Donc, le pape, il veut une revanche publique. Il y a cette théâtralité du processus de l'Inquisition. Il y a cette théâtralité de la condamnation de Galilée. Et le 22 juin, on assiste à l'abjure solennel au couvent de Santa Maria sopra Minerva. Galilée, il reniera toutes ses théories, Galilée, il reniera toutes ses positions coperniciennes et il fera un abjure solennel. Il y a une condamnation de 7 cardinaux sur 10, normalement ça veut dire la perpétuité. Le pape, il veut la plus large diffusion de cette condamnation, donc il va la transmettre à tous les nonces et à tous les inquisiteurs. Le 30 juin, il y a la condamnation qui est trasformée en résidence chez l'archivêque de Sienne Piccolomini, qui traite Galilée comme un ami, è a partire da dezembre 1633 Galilei irà a Setri, danza residence, danza maison a Setri, e il sarà in tournée de ses élèves, de sa fille né, che è un ser Marie Céleste, Virginie, che merra per contro 1654. Il y a tutta la corrispondenza scritta, tutte le déplacements de Galilei seront surveillés. Al 1637 Galilei devient aveugle e al 1642 il merra. Ciampoli il dirà: navighiamo a vele basse e parliamo conformemente alle meschinità dello stato presente. On navigue à voile baissée e on part conformément à la meschinità dell'età présent. Après ça, je vous mets une chanson un peu plus longue, qui est une chanson de. Une belle chanson qui s'appelle Hop. Hop for my generation. On l'écoute. Je vous ai mis cette chanson là, Hope for a Generation, espérance pour une génération, mais je dirais pour plusieurs nombreuses générations, parce que Galilée est condamné, l'Église a reconnu d'être d'avoir tort envers le raisonnement de Galilée, qu'avec Jean-Paul II, donc on part de Galilée c'était en 1633, le procès Jean-Paul II c'est en 1990 et quelques, combien de siècles, 600, 700, 800, 900, 4 siècles après. Hope for a generation, espérance pour les libres pensées, espérance pour une génération à venir, une génération future, une génération qui tient compte du libre pensée. Et on passe à la dernière œuvre de Galilée, là où il est vraiment tout défini. Galilée, n'est moins son procès, il est sûrement, comment dire, il s'égare les épaules, il s'égare les épaules de ses ennemis, tous ses mouvements étaient, la correspondance était tracée, les déplacements étaient tracés, tout était tracé. Mais Galilée, il a élaboré là les méthodes scientifiques, ces nouveaux méthodes scientifiques, qui sont les méthodes expérimentales, basées d'un côté sur l'observation, sur l'élaboration de l'hypothèse, sur la vérification de l'hypothèse par les bias de l'expérience et éventuellement sur la confirmation de l'hypothèse dans les véritables lois physiques et mathématiques. Et gli Diodati, il pubblierà grazie a Buringer una traduzione di un dialogue sur le Maximum System en 1635 a Strasbourg. La maison d'édition sarà El Zeiver, che è un grand homme, un très riche homme hollandais. Après, on aura une autre publication en 1641. Galilée, est dans sa dernière œuvre, on vous parlera bientôt de sa dernière œuvre, il se dédiera aux analyses des mouvements et de l'accélération, qui est la base de la dynamique moderne. Cette dernière œuvre s'articule en deux journées, un peu comme le dialogue qui est articulé en quatre journées. Les premières des journées, il y a les trois mêmes personnages du dialogue, et c'est un dialogue aussi, et c'est, le dialogue s'est écrit en italique. La troisième et quatrième journée, c'est un traité qui serait écrit en roman et en latin, et les traits qui sont dialogicales seront écrits en italique. Donc, il y a cette poursuite de la solidité de l'école galiléenne qui, en 1938, il est publié par Elsevier. Cette œuvre, qui on va voir comment s'appelle, sera dédiée à François de Noailles. François de Noailles, c'était un personnage de la cour papale qui avait allégé la condamnation pour le procès de 1633. Cette œuvre de 1638, c'est la dernière œuvre galiléenne, s'appelle Discorso e dimostrazioni matematiche sulla scienza nuova. Discours et démonstration mathématique sur la nouvelle science. Et pourquoi discours et démonstration? On a vu déjà comme dans l'histoire des tâches solaires, on avait l'histoire et démonstration des tâches solaires. Donc c'est un véritable traité mathématique. Descartes, il fera un critique ponctuel de cette œuvre, mais il l'appréciera beaucoup. Il dirà che pourquoi ça? Parce que Simplicio, che è aussi un protagonista di cette œuvre, come dans le dialogue, il arriverà a avoir une préférence pour la géométrie de Descartes, che è la logique aristotélicienne. Après l'implication de Descartes, on a une lettre à Marcerne qui s'est un éditeur français en 1638, et Marcerne il fera une traduction partielle en 1639 qui sera mais il traduira pas le dialogue, mais il traduira que le traité en latin, il le traduira en français. le lettere di Missy Sankaran, il envoie un lettre Galilea a Leopoldo di Toscana sulla maniera Sandré, on l'a vu la lumière Sandré, la lune déjà sur le Siderius Nuncius. Entre Tannef e 41, Vincenzo Viviani, qui a Selman César, qui est la plus jeune des élèves de Galilée, il publiera la biographie de Galilée. Il y aura un autre élève de Galilée qui continuera l'école de Galiléenne, qui devient, se on parle de Torricelli, il devient le grand mathématicien de la cour du Grand Duc. E Galilée, grâce à lui et à son école, il progetterà son ombre sur la science du XVIIIe siècle. Galilée, il fait de l'ironie, sur dans cette dernière œuvre, qui c'est il discorso di dimostrazioni matematiche sulla scienza nuova, e il dirà qu'il est devenu un lynx aveugle. Ça veut dire que Glass, même dans la vieillesse, il est devenu aveugle. On a dit que Galilée devient aveugle, il a écrit cette œuvre, mais grâce à son art de l'écriture, il enfantera la modernité. Et on va voir la critique de Galilée dans tout ce qui suit son œuvre. D'un côté, il y a le biografie entre il XVIIe et il XVIIIe siècle. On a vu Viviani, le plus jeune de ses élèves, Cézanne, en plus Torricelli, il morirà très jeune à 39 ans. Donc Viviani sera le seul témoin de Galilée, sarà le seul a avoir connu direttement Galilée, qui creerà la biografia. Après lui, il y a tutta una serie di biografie. Après, on a l'école de Galilée, l'école galiléenne, qui sera soutenue surtout par Alfonso Borrelli. Comme Galilée, cette école-là utilisera le latin pour les traités et l'italien pour les dialogues et les polémiques. C'est une école qui se batterà surtout sull'atomisme. On voit qu'à cette époque-là, même dans la postérité de Galilée, la censure sera très forte. Même dans son école, l'Église, l'Inquisition, il sera très fort sur les postérités de Galilée. On vient au 19e siècle, au 20e siècle, pardon, et on parle de Popper, du relativisme cognitif. Selon Popper, Galilée souligne la théorie de la falsification. La théorie de la falsification de Popper. Popper disait que tous les énoncés permettent d'être contredits. Si c'est un énoncé scientifique, il peut être contredit. Et il fait l'exemple de la ligne droite et de la ligne courbe. Ça veut dire, il parle du triangle. On dit que le triangle, la somme des angles du triangle, il doit donner 180 degrés. Mais si on fait un triangle avec la ligne courbe, le courbe donné pour le triangle, il ne donnera pas 180 degrés. Donc, cette théorie falsificationniste appuiera le relativisme cognitiviste de Popper. Se relativiste là, il après Popper, il donnerà. Ils défendront les positions des péripatéticiennes, des aristotéliciennes, et ils diront que ce que j'ai défini, la lâcheté démonstrative des péripatéticiennes, est une forme de scepticisme prudent et modéré. Après, on aura la visée fonctionnaliste. Les fonctionnalistes, ils font une reconstruction non pas véritable sur le modèle de la vérité, mais on se contente che soit mathématiquement opérationnel. Bernard Arminet disait à Galilée: Dites-vous qui vous êtes un mathématicien, vous qui vous procédez ex suppositionem. Donc, ce n'est pas des théories vraies, ce n'est pas des théories absolues. Donc, les fonctionnalistes, ils diront avec Bellarmino, il ne faut pas avoir une vérité absolue, il faut avoir un relativisme, une reconstruction de la réalité. Alors, il faut dire qu'est-ce que c'est. On l'a dit plusieurs fois pendant toutes les émissions qu'on a traitées de Galilée. Qui Galilée est un innovateur. Pourquoi il est un innovateur? Non seulement pour sa méthode scientifique, on a parlé de sa méthode scientifique basée sur l'expérience, sur l'évidence qui confirme la théorie. Non seulement pour la révolution qu'il a apportée à la vision de l'univers, on n'est plus géocentrique, mais on est héliocentrique. Non seulement pour ça, mais pour la langue nouvelle que Galilée utilise. Galilée se rapproche, comme j'ai dit plusieurs fois, beaucoup plus de Manzoni que de Tasso. Galilée a une modernité dans sa langue qui se rapproche à l'italien du XIXe siècle plutôt qu'à l'italien du XVe siècle. Donc on a une rivoluzione della forma letteraria Et cette révolution de la forme littéraire, c'est un lien étroit avec la prose argumentative. Kepler même, après l'exemple de Galilée, il adoptera un style plus succinct et concis. On a un caractère pressant, polémique dans la prose de Galilée. Donc, il y a ce succès extraordinaire de ses œuvres qui est une réaction violente qui suscite la réaction violente de ses adversaires. Les ses adversaires diront Galilée écrit en italien parce qu'il se réfère à un public d'ignorants. En réalité, on a vu que Galilée écrit en italien parce qu'il veut évoluer un plus large public, un public qui n'est pas fait seulement des chercheurs, des scientifiques, mais un public qui est fait de la bourgeoisie comme de la servante, comme de tout le monde qui parlait une langue vulgaire, une langue connue par tout le monde. Et ça parce que la langue pouvait permettre la démonstration, la confirmation par des autres, par la communauté, par une communauté plus large. Ça, c'est parce qu'il voulait éduquer les générations à venir. C'est parce qu'il voulait éduquer la classe dominante et non seulement, même la classe, entre guillemets, servante. Il voulait éduquer à la liberté. Il voulait éduquer à la pensée libre au-delà du latin, qui c'était la langue des scientifiques. Galilée, il a inventé la méthode nouvelle, la méthode de la modernité grâce à une langue qui c'est la langue italienne. Attendez. Je viens vers vous en continuant ce discours-là. Il y a un intellectuel qui s'appelle Finocchiaro qui a écrit un livre à Galileo and the Art of Reasoning, Galileo et l'art de raisonner. Il dit che Galilei fa un'analisi logica e argomentativa, il va a dimostrare la costruzione della pensée filosofica di Galilei, il réexamine sa struttura e ses fonctions, l'adoption rhétorique de la persuasion. Donc, Finocchiaro il dirà che le dialogue sur le maximum système du monde sia un'œuvre de divulgation de propagande, par contre, le discours che on a vu tout à l'heure, le discours sur la nouvelle science, è un'œuvre de recherche scientifique. En réalité, Finocchiaro il se trompe, parce que Finocchiaro, oui, il exalte la rhétorique, mais il met, c'est comme s'il fait un divorce entre la science et la littérature. Mais pour Galilée, la science et la littérature, l'une ne peut pas aller contre l'autre, l'une ne peut pas esister sans l'autre. On doit, comment dire, il y a l'esempio di Menon. Menon dit que Socrate c'est une torpille, la torpille c'est un re, un poisson. Cette là, cette poisson-là, lui a mis dans la tête plusieurs doutes et aumentant ce grand poisson, la torpille, engourdit aussitôt quiconque s'approche et qui, à lui et quiconque la touche. Donc, on voit comme Galilée, c'est vraiment le nouveau Socrate. On a cette approche néoplatonicienne. Socrate sophiste. Socrate, comme pour la langue littéraire de Galilée, est un torpille qui neutralise ses adversaires. Même procédé de Socrate, la maïeutique. La maïeutique, ça veut dire c'est maïeutica, ça dérive de l'art des sages-femmes qui faisaient accoucher les femmes. Donc, il tirait Socrate les idées de ses disciples, il les faisait raisonner tout seul, il les portait à vérifier les idées et à amener une nouvelle théorie grâce au raisonnement. Donc, grâce à la maïeutique, grâce à la vérification expérimentale, on peut arriver à la connaissance. Donc, la rhétorique est la base de la recherche scientifique et du méthode scientifique. Pour les péripatéticiens, pour les aristotéliciens, la méthode scientifique s'était basée sur la logique syllogique, sur la logique du syllogisme, sur la logique abstraite, et pas sur la sperimentation et sur l'observation de la nature. Et quand Galilée, quand l'Église se trouvait en face à l'expérimentation, quand l'Église se trouvait en face à cette méthode scientifique basée sull'esperimentation e non pas sulla logica stretta, il s'est trouvé en difficulté. Donc il s'est trouvé dans une sorte de... il pouvait pas affronter ces choses. Les aristotéliciens n'étaient pas prêts pour affronter ces choses parce que les aristotéliciens se basaient sulla logica, pas sull'esperimentation. Donc il y a une volonté dans Galilée de refuser les réponses immédiates. Il y a une volonté d'apprentissage dialogique et il y a une volonté de la mesure exacte des mathématiques. Les livres de la nature, les grands livres de la nature ne peuvent pas être expliqués che per la misura esatta, che per la langue della matematica. Donc, come dice Bertolt Brecht, il y a un envie della parte di Galilée che l'humanità il y a un renouveau de cerveau. Ce renouveau, c'est sortir l'humanité du scepticisme. Galilée, pour Brecht, c'est un héros tragique, c'est un héros de la modernité. Il y a d'un côté la démocratisation de la science, la choix de la langue vernaculaire, il y a les exemples, les espérances de vie au quotidien, il peut parler même avec sa fanta, même avec sa cerveza. Donc, il faut dire que Galilée gagne son pari. Il parle d'astronomie aux chercheurs, mais en même temps aux bourgeois et en même temps à la fanta, à la cerveza qu'on a vu déjà. À la cerveza de Galilée qui parle de la solidification moduleuse. À propos de la flottation des corps dans l'eau. Donc, la science abandonne la voûte céleste qui est intangible et descend parmi les êtres humains. Tout ça pour assurer les conditions de leur bonheur, pas de leur crise. À propos de tout ça, j'aimerais finir tous ces discours avec une belle chanson de David Bowie qui s'appelle Space Oddity, vacuité de l'espace, vide de l'espace, pardon, vide de l'espace. Après cette concrétisation de l'espace, après cette rêve de l'espace, après cette découverte, tangibilité que Galilée nous a donnée de l'espace, je vous fais écouter Space Oddity où le majordome parle avec le grand contrôle, le control della terra, le missili le envoyé dalle space, là ou là ou là, un nouvel découvert de l'espace, la découvert par une façon plus tangible, non seulement par la façon de l'expérience mentale qui fait Galilée. Il y a la découverte concrète de l'espace, le major Tom est envoyé de la Lune. On écoute ces chansons et je vous dis, on écoute la chanson.
Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control 9, to Major Tom.
8, 7, 6. Lift off.
Donc on voit comme Major Tom il se perd dans l'espace. Can you hear me, Major Tom? Tu peux écouter moi, Major Tom, qui de partir dans l'espace, il se perd dans l'espace. J'espère que toutes ces émissions, quatre émissions sur Galilée, elles vous ont plu, même si sont, je l'avoue, c'est très intellectuel, c'est très, il faut être très concentré, ces nouvelles méthodes scientifiques, l'homme qui a renouvelé la conception du monde, de l'univers, on est passé de la théorie géocentrique à la théorie héliocentrique, la Terre marginale, mais non pour ça. Que l'homme est marginal, l'humanité est marginale, non pour ça che l'homme qui n'est plus au centre du monde doit avoir une crise, plutôt il doit élaborer sa condition et grâce à la réalité sa condition prendre conscience et avoir une nouvelle positivité plutôt qu'un pessimisme comme il pensait les aristotéliciennes, comme il pensait l'Église. Il met en discussion les méthodes de l'Église, il met en discussion les principes sacrés, il met en discussion les mostres sacrés d'Aristote, il met en discussion tout. La méthode de Galilée si base sur l'expérimentation et pas sur la logique syllogique, pas sur la logique abstraite. La méthode de Galilée si base sur une nouvelle langue. La langue, c'est toute une chose avec sa rhétorique, avec sa nouvelle méthode scientifique, avec sa nouvelle science. Donc l'homme qui a révolutionné vraiment le monde, l'homme qui a révolutionné vraiment la façon de penser. Je vous dis, je vous remercie surtout pour votre écoute de ces quatre émissions très intellectuelles, très un peu trop peut-être engagées, un peu trop cérébrales. Mais en tout cas, j'ai voulu vous ouvrir un petit port sur l'univers avec cet homme qui nous a changé la vision du monde. Je vous dis à de lundi et je vous remercie. Avec Nino domani a Palermo, vous êtes à l'écoute de Simone e je vous dis au revoir à de lundi.
Io sono il fortunato ragazzone, facendo acquisto dell'umanità. Ho una superba faccia da frescone, esuberante imbecillità. Sportivo a tempo perso, un po' monello. Con la diversa in bocca me ne vo', ma che c'ho prepotente, a picchiatello, poi saputello, eppure nulla so. Marcello, io sono il piccolo Marcello, papputello, sbarbatello, sfrontatello e spacciatello. Marcello, sono più leggero di un buscello, più prezioso di un gioiello, più innocente di un porcello. Marcello, Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù. È strano, lo so, ma un fascino, no, ce l'ho, ce l'ho, ma chi per bingringhina che ce l'ho? Marcello, sono un padrone come Vicello, lieto come uno stornello, fesso come un somarello. Marcello, Marcello, col microscopico cervello, più piccino di un disello, penso solo che sono bello, sono il bello di mamma. Ormai con la bellezza solamente si può germire la celebrità. Sono molto noto infatti dalla gente che come me non tiene a che pensare. Io so cantare come la Pagliardi e vesto con quel certo non so che, ho gusti delicati e raffinati, vorrebbe ognuno somigliare a me. Marcello, tutti mi chiedono il modello della giacca, del cappello, del colletto e dell'ombrello. Marcello, mi copiano tutti questo quello dalla scarpa di vitello al mio passo di cammiello. Marcello di qua, Marcello di là, Marcello di su, Marcello di giù, non vedo che me, non so neanche me. Marce, Marce, a Marce, beh, che c'è? Marcello, se a mezzanotte canterello qualche sciocco ritorniello, canto tutti sono quello. Marcello, ma soldato questo quello, ma sta a casa, signor Marcello.
E perché?
Perché son bello, sono il bello di mamma.